travaille sur ce thème à partir d'une question simple, essentielle, qui concerne tellement de monde à notre époque, à savoir comment diminuer le taux de chômage. Et les solutions traditionnelles sont mises sur la table. Est-ce qu'il ne faut pas plus diminuer les cotisations sociales? Est-ce qu'on ne doit pas modifier les aides à l'emploi? Ne doit-on pas augmenter le nombre d'emplois subsidiés? Ne faut-il pas augmenter les efforts de formation, les efforts d'innovation? Qu'en est-il de nos politiques de soutien à l'économie? Qu'en est-il de la politique fiscale et le bien-être à l'emploi dans tout ça, les emplois de qualité et le statut du travailleur? Le ministre Chris Peeters aujourd'hui sort une batterie de propositions qui concernent la flexibilité du statut. Et puis chacun est évidemment rivé sur les chiffres de croissance économique, puisque qui dit croissance économique dit augmentation de l'emploi. Mais de plus en plus, une réflexion de plus long terme prend toute sa place. C'est notamment la croissance économique. Est-elle momentanément en panne ou est-on dans une nouvelle ère où on ne connaîtra plus de croissance économique importante? Autre question que posent certains, peut-on encore vouloir une croissance économique forte, même si elle met en péril la vie sur la planète? Or, une croissance basse et l'évolution du numérique vont-ils diminuer durablement l'emploi disponible? Et vous avez, j'y reviendrai, toute une série de chercheurs. Les plus célèbres en la matière sont ceux d'Oxford qui ont prévu en 2013 que 47 des emplois sont menacés par le numérique. Que faire dès lors dans un monde qui détruit l'emploi disponible? Alors, je suis à titre personnel une fan de séries télévisées, et j'ai commencé avant-hier la série Trépalium, qui est... vous n'êtes pas... Trépalium, vous connaissez bien les séries aussi. Trépalium, c'est une série Arte qui montre en quelque sorte un monde qui serait allé vers ses pires défauts, avec 20% d'actifs d'un côté et 80% d'inactifs, dit également inutile, de l'autre, et entre eux un mur. Et puis un monde qui s'établit avec ce mur au milieu, une seule entrée, des activistes dans le monde des inutiles, et puis une première ministre qui essaye de faire quelque chose et qui invente 10 000 emplois de solidarité. Des emplois qui vont permettre à 10 000 inutiles de rentrer dans le monde des activistes. Les réalisateurs disent, ben oui, on a à un moment donné voulu s'interroger sur la place de l'individu dans la société, autour de ces 80%, un licenciement et vous avez l'impression de perdre toute votre valeur sociale, et pourtant, avant, on disait que le travail abrutissait et que l'individu libéré du travail pouvait s'adonner au choix, par exemple, de la culture. Et puis pour les 20%, les gens trouvent normal, alors que la situation économique est très difficile, de souffrir au travail, d'avoir peur, la peur de perdre l'emploi et d'être versé dans la catégorie des inutiles. Alors je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure des séries télévisées, mais elle pose quand même certaines questions essentielles. Et notamment cette question centrale, l'emploi va-t-il durablement régresser? Et si oui, que faire? Une série de propositions sur la table qui concernent le moyen terme. Est-ce qu'on ne doit pas retrouver une politique keynésienne de grands travaux d'investissement public qui nous permet en tout cas de modérer cette avancée vers un monde où il y aura beaucoup moins d'emplois? Quid de la réduction collective du temps de travail, mais aussi des questions liées à cette politique? Le notamment les questions liées au coût économique, soit pour l'entreprise, soit pour le financement de la sécurité sociale, soit pour le revenu des ménages. Reviennent aussi sur la table les anciennes théories, propositions, comme celle de l'allocation universelle et son cortège de questions quant à sa viabilité financière, mais aussi à l'approfondissement des inégalités. Et puis, les économistes nous bousculent. Alors, je ne vais pas parler de ceux qui sont autour de la table, mais peut-être de l'un ou l'autre qui s'exprime pour le moment. Daniel Cohen, par exemple, économiste français qui a écrit, je pense, un livre très intéressant, « Le monde est clos et le désir est infini », et où Daniel Cohen nous dit, vous savez, nous allons connaître le troisième Big Bang après l'agriculture et la révolution scientifique. Nous sommes, avec la révolution numérique, obligés de trouver un nouveau modèle. Quel modèle ? Vous avez Paul de Grau, belge, qui dit, mais comment le système de marché que l'on connaît va-t-il pouvoir résister ? Et il dit, les limites internes et externes du capitalisme s'amplifient. Ils s'amplifient avec le coût environnemental, avec la révolution technologique et la progression des inégalités. Lui, l'ancien sénateur du DND, a beaucoup évolué par rapport, et le dit lui-même, par rapport à ses premières réflexions. Il examine même ce en quoi Karl Marx n'avait pas tout à fait tort. Le système offre, dit-il, de telles fêlures que d'aucuns se demandent s'il va pouvoir colmater les brèches, et sinon, à quoi peut-on s'attendre? Et puis alors, il y a celles et ceux qui essaient d'inventer un nouveau modèle, qui ne se contentent pas de dire « on a un problème », qui se disent « mais tiens, pourquoi pas ceci ou cela ?» Et je vais donner un exemple à travers un modèle qui a été expliqué lors du chantier des idées organisé par le parti, à savoir un modèle imaginé par Ars Industrialis avec son porte-voix, son porte-parole Bernard Stiegler. Il fait un constat, Bernard Stiegler. Il dit, un peu comme les grands penseurs, les grands statisticiens de Ford, il dit, ça ne va pas aller. Ça, avec la destruction d'emplois, on ne va pas pouvoir. Il parle d'Oxford, il parle du MIT, qui, dans une de ses hypothèses extrêmes, prévoit pour les États-Unis une disparition de 70% des postes de travail d'ici 30 ans. Il parle de Roland Berger, en France, qui prévoit 3 millions de chômeurs en plus dans les 10 ans qui viennent en France, et il dit, ce sont des chiffres qui font... Donc on ne peut plus se contenter de se dire on va un peu faire plus d'aide là, un peu réformer. Non, ce n'est plus une réforme qu'il faut, c'est vraiment un nouveau modèle. Il dit aussi quelque chose d'assez intéressant, il invente un mot, la disruption. Alors, ce n'est pas en réfléchissant à Eliot Rubin, non, mais c'est un terme qui veut dire quoi? C'est un phénomène, dit-il, d'accélération d'innovation, accélération folle. C'est vrai que Daniel Cohen, dans son livre, donne quelques exemples d'accélération qui sont inouïs, on ne se rend pas encore compte du monde dans lequel on va vivre. Et il dit que ce phénomène d'accélération est à la base d'une stratégie développée dans la Silicon Valley, à savoir aller plus vite que l'adaptation possible des sociétés, de telle manière qu'on peut leur imposer des modèles qui détruisent les structures sociales et rendent la puissance publique impuissante. Fait des constats. Il se dit, bon, on va donc vivre dans un monde d'automatisation, de robotisation, l'emploi va fondre comme neige au soleil, et on se demande même comment les gens vont consommer, avec quoi, quel pouvoir d'achat. Et il dit, vous savez, la même question s'est posée au début du XXe siècle, finalement, avec la grande crise, avec les années 30 et ce qu'ils ont connu. On a inventé à ce moment-là un nouveau modèle. Ils ont osé. Ils ont osé inventer le modèle du fordo-keynésianisme, avec des grands investissements, avec un statut du salarié avec un salaire adapté. C'était en quelque sorte la redistribution des gains de productivité par le salaire. Et il dit que ce modèle-là a fait merveille. Il a sauvé d'un désespoir des millions et des millions de personnes, de travailleurs. Mais c'est un modèle qui est complètement épuisé. Alors, dit-il, nous allons inventer un nouveau modèle. Et il propose un nouveau contrat social où on va, en quelque sorte, passer de l'emploi au travail. L'emploi, dit-il, c'est quoi? Ça va venir quoi dans le futur? Avec tous ces automates, avec tous ces robots, ceux qui seront dans ces emplois vont en quelque sorte servir un système technique. Mais à côté de cela, il y a le travail. Le travail qui fait appel à la part d'improbable, d'incalculable, d'imprévisible. C'est par exemple le travail du médecin, le travail de l'artisan, le travail du concepteur web. Il faut, dit-il, valoriser ce travail hors salariat, cette capacitation, en faisant notamment référence aux travaux d'Amartya Sen, ancien prix Nobel d'économie. Et il propose même un régime, celui des intermittents du spectacle en France. Ils touchent une allocation lorsqu'ils développent leur capacitation, autrement dit, ils rechargent leurs droits à condition d'être en production salariée à un certain nombre d'heures. Je vous signale que la France a décidé, avec l'appui de grandes universités européennes, notamment anglaises, de soutenir un projet pilote autour de cette théorie. Comme quoi, elle n'est pas tout à fait folle. Et ça va se passer dans une des régions les plus fragiles en France, la région de Seine-Saint-Denis, où si on y prend garde, avec les chiffres d'automatisation dont je vous parlais, la situation qui est déjà dramatique à Seine-Saint-Denis, avec un nombre de chômeurs inimaginable uniquement parmi les jeunes, va s'amplifier sans qu'on puisse rien y faire. Il a décidé, avec ce concert d'université soutenu par l'État français, de révolutionner Seine-Saint-Denis, ni plus ni moins. Et de travailler avec ce genre d'allocation intermittente du spectacle en développant une capacitation, à savoir les concepteurs web. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Il y a en tout cas énormément de questions qui se posent, les mêmes qu'on se pose autour de la diminution du temps de travail ou de l'allocation universelle sur les inégalités, sur le financement, notamment le financement de la sécurité sociale, etc. Mais c'est en tout cas passionnant parce que là, il y a des propositions, il y a un nouveau modèle. Bref, mes chers amis, les questions qui se posent sont extrêmement nombreuses, les réponses, elles sont moins évidentes. En même temps, c'est un chantier passionnant avec, je le sais, des orateurs passionnés. Alors le défi que nous vous lançons est très simple, messieurs, c'est de nous aider à réenchanter la vie.